Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien
préféré.
On est de retour. Après une petite pause.
Bin année.
À
tout le monde. Oui. Merci d'avoir attendu après nous. On avait besoin d'un petit break.
Oui, ça fait du bien de prendre un petit mois de congé de temps en temps.
Ouais. On en prend un d'habitude l'été.
Ouais.
Puis un là.
Ouais.
C'est pas si pire.
Non, c'est pas si pire.
Genre 2 semaines oui. D'épisodes.
Mais je sais que les gens qui sont à jour, ben là, c'est sûr qu'ils attendent.
Ah oh oui, vous êtes tellement cute, on se les fait dire. Genre, ah oui. Oh non, je pensais qu'il y avait un autre épisode qui allait sortir, puis finalement non, puis j'étais vraiment déçue. Mais je suis contente pour vous, mais je suis déçue. Mais genre, merci de nous
mais
avoir attendu.
N'oubliez pas qu'on a un Patreon oui. Qui vous donne un épisode bonus par mois.
Ouais, on en a quand même sorti un en janvier.
Ouais. Donc, si vous abonnez là, ben vous avez quand même déjà. Je pense qu'on est rendu à
3. 4.
Quatre épisodes bonus, ouais.
Wow, on est en feu. My God. En tout cas, bonne année à tout le monde. Pardon. Qu'est-ce que je dis là?
Puis oui, c'est ça. Alors, merci de nous écrire. Puis ouais. Si vous voulez encourager le podcast aussi, vous pouvez donner des commentaires là, sur Apple Podcasts puis les autres plateformes.
Oui, on a déjà tellement des beaux commentaires oui. De tout le monde. On en a des mauvais aussi, mais... On n'en parle pas. Mais on a tellement des beaux commentaires, puis on a full de...
oui.
Ah, ça fait du bien de les lire, de voir que la belle énergie. Puis oui. Déjà qu'on reçoit tellement beaucoup de messages Instagram et Facebook, c'est fou.
Oui.
Merci de votre amour. On commence l'année on finissait l'année sur des notes très positives d'amour
oui,
et de
vraiment.
Belle communauté de gens un peu wacko qui trippent sur le... On a tellement de gens qui font des petites stories, genre des filles qui marchent la rue le soir, puis sont comme... Tu sais, j'ai de l'air inoffensive, puis là, j'écoute des histoires de meurtriers dans les oreilles, puis c'est un peu intense. Mais ça me fait bien rire. Fait que oui, allez nous laisser, si vous avez 2 petites secondes, nous laisser un commentaire sur toutes les plateformes. Mais je pense que Spotify, tu peux pas.
Non,
mais
c'est
Apple,
ça, hein?
Tu peux.
Apple, tu peux. Google, puis, peut-être? Google
ouais.
Podcast?
Ouais, ça nous aiderait vraiment beaucoup
oui,
à nous faire
aide
voir
à
et...
faire connaître le...
Oui.
Le podcast.
Merci d'avance.
Oui.
Est-ce que on rentre direct dans les crimes de Potter?
Ah oui, j'ai
parce
un...
que ça a brassé là.
Ça a brassé depuis
pendant
qu'on
les
a enregistré.
Ça a brassé. On a un potin sur les épisodes 18 et 19
mm-hmm.
qu'on a fait de retour c'était 7 et 21 juin 2021.
Oui, alors c'était les parties 1 et partie 2 sur le serpent.
Ouais.
Le tueur en série Charles Sobrage. Alors, c'est sorti dans les journaux en décembre, fin décembre, que Charles Sobrage a été libéré de la prison au Népal parce qu'il devait avoir une opération à cœur ouvert. Et il avait servi, je pense, le 3/4 de sa peine ou le 2/3 de sa peine. Donc, il avait le droit d'être libéré. Alors, le Népal a fait « C'est bon, sort de prison, en way en France. » Fait que là,
Boy.
Il était shippé en France et il est maintenant libre. Et il se dit innocent.
Ouais. Quand même. Fait qu'aller, cette histoire-là est assez...
est assez folle. Pour vrai, c'est un des
ouais.
pires tueurs en série que qu'on a fait là, il est vraiment
ah oui,
il y a tellement tué de monde puis on sait même pas tout le monde que tu es là.
Non.
Il y a des victimes qu'on probablement qu'on connaîtra jamais malheureusement
non.
là.
Il y a une série aussi sur Netflix, je pense.
Oui.
Qui avait été faite là-dessus.
Oui.
Mais on a plus de détails.
Avec la Britannique qui joue
oui.
Marie-France, la Québécoise, puis elle parle pas un hostie de mot de français.
C'est génial.
C'est fâchant.
C'est vraiment...
Faut pas que je reparte
à grincer des dents. Ouais.
Mais sinon, fait la série est quand même bonne.
C'est les épisodes... nos épisodes à nous, c'est les 18 et 19. Ça date de 2021.
Ouais, si vous avez pas écouté ça, allez écouter ça. C'est ouais, vraiment
c'est une
histoire
assez intense. Oh my god. On a d'autres crèmes de potin aussi, mais.
Pour la prochaine fois.
La prochaine fois, on va vous en dire plus.
Pas toutes les dire en même temps, là.
Non, on les garde. Donc, t'es-tu prête pour la première histoire de 2023?
Oui.
Écoute, je te raconte l'histoire de Joseph Albert Gay.
OK.
Qu'on va l'appeler Albert Gay parce que ça date des années 20, 30, 40. Fait que dans ce temps-là, la majorité des gens avaient Joseph ou Marie
oui,
dans leur
vrai.
Nom.
Oui.
Fait que c'était mm-hmm. Fait que son nom, dans le fond, c'est plus Albert. Albert. On va se dire.
Le nom sonne une cloche, mais je peux vraiment pas dire quoi.
Ben, il est né à Charny, à Québec.
Ouh, Rive-Sud.
Peut-être. Nous, on se rappelle qu'on vient de Québec.
Ouais.
Je sais pas combien de fois on l'a dit, peut-être 2000 fois.
Gagne,
on vient
de
Québec.
Et toi, en fait, tu viens de Chicoutimi.
Ouais. Le hood.
Ouais.
Écoute. J'ai dit à ma soeur, en plus, qu'on avait fait un épisode qui se passait à Place du Royaume, à Chicoutimi. Puis j'y en ai parlé, puis elle a dit « Crime, je m'en rappelle! » Parce qu'on habitait là dans le temps, ça a l'air. Je m'en rappelle pas, j'étais trop petite, mais en tout cas. Bref. Donc, aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Albert Gay. Mes sources, le New Yorker, l'histoire du Québec.ca, Murderpedia et CBC. Donc, Joseph Albert Gay naît le 22 septembre 1917 à Charny, sur la rive sud de Québec.
OK, ouais, c'est vieux.
1917. Ouais, c'est
vieux.
Ouais.
Wow.
Il est. Mais, ouais, c'est parce que l'histoire est vraiment impressionnante. c'est le plus jeune d'une famille de 5 enfants. On le décrit comme un enfant pourri gâté qui obtient vraiment toujours ce qu'il veut. Attitude qui le suit toute sa vie,
mm-hmm.
ce qui est vraiment important dans l'histoire. Son père travaille sur les chemins de fer de la compagnie Canadian National. Mon accent tabarnak. Canadian National Railways?
Ouais, l'ECN. Railways. Qui est devenu l'ECN, je pense.
Ouais, ça. Et décède dans un accident de train lorsqu'Albert a 5 ans. Mm. Après la tragédie, la famille déménage à Limoilou,
ouh!
Sur la rive nord de la ville de Québec. Pour les gens qui
Basse-ville de Québec.
Ouh! Ouais. Donc, pendant son adolescence, Albert fréquente les salles de billard puis il commence à vendre illégalement des montres et des bijoux. Au début de l'année 1941, donc là, rendu là, il y a 23 ans, il trouve un emploi dans un arsenal où il continue à vendre des bijoux aux employés. Là, avec ses deux emplois combinés, le légal et le illégal, il fait quand même un bon revenu. Ça a l'air qu'il faisait environ 40 $ par semaine, ce qui était vraiment beaucoup à l'époque.
OK.
On est en 1941.
Fait que pendant la Deuxième Guerre. Ouais.
Exactement. Il peut donc s'acheter une voiture et ainsi attirer le regard des femmes qui travaillent à l'arsenal. Parce que là, ouais, il y a un char. Hein?
Ouais, oui, c'était cool dans ce temps-là.
Parmi ces femmes-là, il y a une jolie brunette du nom de Rita Morel qui tombe dans l'œil d'Albert. Les tourtereaux s'amourachent l'un de l'autre et ils se marient au mois d'août de la même année.
Wow.
Genre, on y est pas. Le couple emménage dans un appartement à Basse-Ville de Québec. En 1944, Albert quitte son emploi à l'arsenal et il devient vendeur de bijoux à temps plein sur la côte nord, donc vraiment plus loin.
Okay.
Il déménage donc à Sept-Îles et là, ils ont une fille, Lise, en 1945. Donc, tout se passe quand même assez rapidement. Et la côte nord, c'est loin, là. Tu peux pas y aller en voiture, pour ceux qui savent pas, de Québec, faut y aller en avion.
Ben, ça dépend où, c'est la côte nord. Mais en fait, à cette époque-là,
ben, Sept-Îles. C'est loin.
Ben, aujourd'hui, tu peux y aller en voiture.
Ouais, aujourd'hui.
Mais j'avoue qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de route qui se rendait.
Non. Mais c'est loin, Québec, Sept-Îles.
Ouais. Mais ça se fait.
Oui, ouais, ça se fait, mais c'est loin.
C'est vraiment loin. Je ne sais pas combien d'heures. Mais...
Écoute, on Google. Albert voyage donc beaucoup pour son travail. Lors d'un de ses voyages à Québec en 1947, il rencontre une dénommée Marie-Ange Robitaille, une serveuse de 17 ans. Marie-Ange
est... Lui, quel âge?
Lui, en étant 47, il est né... Oh, tu veux me faire un calcul? Oh non, c'est Fafa! C'est Fafa. J'ai quel âge? Il a 30 ans.
Ouais, 30.
47 moins 17.
Ouais.
Non, tu m'as tout déboussolé.
Fait que, ouais, Marie, il y a 30 ans. Marie-Ange qui a 17 ans.
Il rencontre Marie-Ange Robitaille qui me servait de 17 ans. Marie-Ange, elle, elle dit à Albert qu'elle a 19 ans. Ah. Fait qu'elle lui ment. Et Albert, de son côté, il prétend s'appeler Roger Andrews.
Ah, OK.
Donc, les deux se mentent, mais bon. Marie-Ange, elle sait qu'Albert, il est marié puis il a un enfant, mais elle tombe quand même amoureuse de lui. Fait que là, les tourtereaux, ils entretiennent leur relation extra-conjugale. À chaque fois qu'Albert, il vient à Québec, parce que pour son travail, il fait souvent le voyage entre Québec et cette île. Et là, après une année de relation à distance, Albert, il décide de se rapprocher, pour que ce soit plus facile, de Marie-Ange, et déménage sa famille, donc sa femme et sa fille, dans un nouvel appartement sur la rue Saint-Sauveur à Québec. La relation continue jusqu'en la relation entre Marie-Ange et Albert.
Et Rogers.
Et Roger Andrews. Ça, là, c'est un ancien un chanteur de l'époque. Ce qui n'est pas très subtil, s'il est connu. Non. Parce que, ouais, c'est comme ça. La relation continue jusqu'en novembre 1948. Et c'est à ce moment-là qu'en novembre 1948, que Rita, donc la femme d'Albert, apprend l'existence de Marie-Ange. Elle ne savait pas. Mais Marie-Ange a toujours été au courant.
Rita savait pas.
Exactement. Donc, Rita va confronter directement Marie-Ange chez elle, en fait, chez ses parents, parce qu'elle est encore mineure, on se rappelle qu'elle a 17 ans, pour lui interdire de voir son mari. Après cette confrontation-là, les parents de Marie-Ange, au lieu de la protéger, ce qui est vraiment triste, ils la renient et ils la mettent à la porte.
Oh my God!
Mais tu sais, à l'époque...
Moi, j'avoue qu'à l'époque, c'était comme fréquenter un homme marié. C'est ça, tu peux pas faire ça, là. Une relation extra-conjugale.
Exactement. Ouais. Donc, bon Marie-Ange, elle se fait mettre dehors le soir même. Donc, elle appelle Albert, qui est Roger Andrews, pour lui raconter ce qui venait d'arriver. Et là, Albert, lui, il communique aussitôt avec une amie à lui, Marguerite, parce qu'il sait que son amie Marguerite est propriétaire d'un appartement qui était vacant sur la rue Richelieu, toujours à Québec. Donc, dans la même nuit, Marie-Ange emménage dans l'appartement de Marguerite et Albert promet de payer le loyer pour Marie-Ange à son amie. Donc, tout est bien qui finit bien pour elle. Et Albert et Marie-Ange sont comme en amour par-dessus la tête après ça. Mais là, il reste quand même frustré parce que, de un, Rita, elle avait tout chié la belle relation qu'ils avaient. Fait que là, à ce stade-ci, Albert, il est à bout, puis il veut plus rien savoir de Rita. Il veut se marier avec Marie-Ange. C'est ça qu'il veut.
Et le divorce était très mal vu à l'époque.
Exactement. Ouais. Voire impossible. Donc, pour pouvoir se faire, Albert doit se séparer de Rita. C'est ça. Donc, cependant, à l'époque, le divorce, c'est pas vraiment une option parce que le Québec, il est strictement catholique et le divorce, c'est contre la religion. Donc, mal vu et impardonnable, surtout.
Ouais. On se rappelle qu'au Québec, les femmes ont eu le droit de vote en 1940.
Ça en dit long. Ouais. Donc là, Albert, il doit se creuser la tête puis trouver un plan. Tu me vois venir?
Je vois que ça va être un plan de merde.
T'es pas prête. Honnêtement, là, le plan, il est insane. Fait que là, d'abord... Il pense, sa première idée, il veut empoisonner Rita en payant son ami Lucien Carreau 500 $. C'est 500 $ en 1940.
C'était beaucoup.
C'est beaucoup. Pour mettre du poison dans son verre de vin de cerise. C'était sa boisson préférée. Ouais. J'avais jamais entendu ça de ma vie, vin de cerise. C'était la boisson préférée de Rita. Mais Lucien a refusé. Donc, échec de ce plan-là. Le 7 mai 1949... Dans l'actualité, il y a un avion de la Philippine Airlines qui explose et tombe dans la mer de près de Manille, la capitale des Philippines. Puis ça tue 13 personnes. Le responsable de l'explosion de l'avion, c'était l'amant d'une des femmes dont le mari était à bord de l'avion. Tu me suis?
Attends.
lui qui a fait exploser l'avion aux Philippines, il y avait une amante. Puis le mari de cette femme-là, il était dans l'avion.
Ah, qui fait qu'il a fait exploser le mari.
Fait qu'il a fait exploser le mari.
Et 13 autres personnes.
Et 13 autres personnes. Ben, 12 autres personnes. Donc, l'amant, il a engagé un couple d'anciens détenus pour dissimuler une bombe à retardement dans l'avion et le faire exploser pour tuer le mari quand l'avion était dans les airs. Idée de génie, non? Donc là, Albert, lui, il voit ça dans l'actualité, puis il fait « Colin, c'est bien une bonne idée. »
Ah ouais.
Donc là, Albert concocte son plan infaillible. Il fait appel à un ami à lui, Généreux Ruet.
Généreux.
Je te parle un petit peu de Généreux. Généreux, il est né en 1899. Il est un petit peu plus vieux. À Saint-Octave de Métis. Je l'ai googlé. Ça se trouve à environ... Ben là, c'est pas un village très connu.
Non.
Ça se trouve à environ 30 minutes de Rimouski.
Ah, OK, oui.
Puis Généreux, il est élevé dans une famille assez dure et intense. Puis il était vu comme une personne qui n'avait pas beaucoup de morale.
Ah.
Je te donne un exemple.
OK.
Il y a une fois, il était patient dans un hôpital catholique, puis il a convaincu une religieuse, qui était son infirmière, de le laisser avoir accès à une chambre privée avec une prostituée en lui faisant croire que c'était sa femme.
OK.
Fait qu'il faisait comme des petites magouilles de même. Fait que les gens, ils savaient que lui, il avait zéro morale. Uh-huh. Ça, il se foutait de tout.
Il s'appelait Généreux.
Oui, Généreux. À l'âge adulte, Généreux est atteint d'une tuberculose aux deux hanches, donc il peut juste marcher à l'aide de béquilles. Mm. Ayant presque perdu l'usage de ses jambes, Généreux y met à profit ses mains et devient très habile dans le domaine de l'horlogerie.
Oh.
Il s'ouvre donc un atelier d'horloger dans son appartement. Point. La phrase a fini, c'est là! Excusez-moi. Il s'ouvre donc un atelier d'horloger dans son appartement. Point. C'est gênant. En 1949, le célibataire de 51 ans, qui est connu comme étant le meilleur horloger de la ville de Québec. Albert, lui, il devient un des meilleurs clients de Généreux parce qu'il lui envoie des montres brisées à réparer,
okay,
en faisant comme une marge de profit, bien sûr. Mm-hmm. Et là, ils finissent par devenir bons amis. Donc, ça, c'était le portrait de Généreux.
Oui.
Donc, Généreux, ayant un talent pour la mécanique,
uh-huh,
et les montres,
uh-huh,
et les timers,
uh-huh.
Tu me vois venir?
Oui, je te vois venir.
Albert, il lui demande de lui fabriquer une bombe à retardement avec une minuterie. Pourquoi Généreux accepte de fabriquer une bombe, tu me demanderas.
Oui.
Albert, il lui dit que la bombe servirait à déraciner des grosses souches d'arbres qui étaient prises dans son champ chez lui.
Ah, OK.
C'est ça,
c'est comme legit. Une bombe à utilisation...
saine.
Oui.
Fiche.
Ouais.
Donc, Généreux construit donc la dite bombe. Il utilise des piles, un réveil matin, un détonateur, des fils électriques gainés et, sans oublier, des bâtons de dynamite.
Mm-hmm.
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 Faut savoir qu'à l'époque, j'ai fait des recherches, acheter de la dynamite, c'était quand même très facile.
Ah ouais?
C'était enregistré, mais pas réglementé. Fait que tu sais, ils savaient qui en achetait, mais il n'y avait pas de limite.
N'importe
de...
qui pouvait en acheter.
C'est ça. Donc, c'est la sœur de Généreux Ruet, Marguerite Ruet, maintenant qui s'appelle Marguerite Pitre, de son nom de femme. Ben, ouais.
Son nom de mariage.
Son nom de mariage, ouais. Je sais pas si on dit son nom de femme. C'est ça,
ben non, c'est son nom de jeune fille.
Son nom de jeune fille.
C'est Ruet.
Puis son nom de...
Son nom... Non.
De...
Okay. De après le mariage, je sais pas.
Bon, en tout cas. Fait qu'elle s'appelait... Elle est née Marguerite Ruet, maintenant Marguerite Pitre. C'est elle qui avait fait l'achat de cette fameuse dynamite dans une quincaillerie. La quincaillerie chez Sanson et Filion, pour être plus exact. Et ça lui avait coûté un grand total de 6,09 $.
Elle est pas chère, la dynamite.
Non, vraiment pas. Mais tu sais, c'est quand même plus, tu sais, à l'époque, dans les années 40, mais quand même.
Tu sais, je me dis si.
Ce serait l'équivalent de quoi aujourd'hui.
Le gars, il faisait 40 $ par semaine. En même temps, c'était beaucoup. Fait que peut-être que, mettons, 20 $ par semaine. À
ouais, je sais pas. Ouais. Que...
Une journée de travail.
Ouais, peut-être. Donc, Marguerite, elle connaissait bien Albert parce qu'elle avait travaillé aussi à l'Arsenal quelques années plus tôt. Et elle aurait même aidé à cacher des rencontres secrètes qu'il y aurait eu avec Marie-Ange.
Ooh, okay.
Donc là, j'ai fait un petit portrait de notre chère Marguerite.
Uh-huh.
Marguerite est née en 1908, aussi à Saint-Octave-de-Métis, comme son frère.
Ouais.
Classique.
Uh-huh. Logique.
Dans le même environnement difficile et pauvre que son frère. À 22 ans, elle passe 2 mois en prison pour vendre d'alcool illégal. Puis elle était aussi connue pour performer des avortements illégaux.
Oh.
Donc elle non plus, la morale, c'était pas...
Mm.
Ça aurait si... Ça
t'as fait des trucs aujourd'hui que c'est chill, genre
ouais,
boire puis l'avortement.
Ben, elle vend de la... C'est le côté illégal.
Ouais,
genre,
c'est ça, comme c'était là, ouais.
Bref, ça aurait aussi l'air qu'elle était... comme genre comment dire très fan des hommes, mettons.
OK.
Et que la police provinciale pense qu'elle aurait donné naissance à 14 enfants de pères différents. Wow. Cependant, elle n'en aurait élevé que deux, les garçons qu'elle a eus avec son premier mari, un dénommé Michaud.
OK.
Elle a fini par quitter son mari sans le divorcer, bien sûr, parce que tu divorces pas mm-hmm. à cette époque-là.
Mm-hmm.
Et elle va vivre avec son nouvel amant, un dénommé Pitre.
Ah oui, OK.
Donc, 5 ou 6 ans plus tard, Michaud décède. Thank God pour elle.
Mm-hmm.
Donc, Marguerite, elle peut se remarier avec Pitre en 1949. Il y a certaines personnes qui croient qu'Albert et Marguerite y auraient comme eu une petite aventure,
mm-hmm.
mais les deux l'ont toujours nié.
Okay.
Puis ça a l'air que, dans un article, que quand Albert se faisait poser la question, ça a l'air qu'il répondait toujours « Non, mais l'avez-vous vu? Impossible. »
Oh my God!
Ça devait pas être joli. Ça a l'air que Marguerite était décrite. Mais mettons, comment on l'a décrit? Genre, je comprends. Elle dit les gens ils décrivaient Marguerite comme étant une femme aux traits sombres, avec les cheveux noirs, un visage large, un air déprimé et une personnalité amère.
OK,
fait que pas attirante. Ouais. C'est pas genre une belle jeune femme.
Avec une super personnalité. Là.
Exactement. Puis ça, c'est un résumé des descriptions que j'ai lues. Là. Il n'y avait rien de positif.
Oh my God.
Fait qu'on se bof. Bon. Donc là, maintenant que le dossier de la fabrication de la bombe est réglé dans le plan,
mm-hmm.
comment faire en sorte de faire exploser Rita,
ouais.
tristement, sans qu'on retrace la bombe jusqu'à Albert? Là, il est rendu là dans son processus.
OK.
Donc, étant un représentant de bijoux sur la côte nord, Albert y voyage souvent. Donc, il prend souvent l'avion.
Mm-hmm.
Donc, voici son plan. Étape numéro 1. Convaincre Rita de prendre l'avion en direction de Bécomo. Étape mm-hmm. numéro 2. Enregistrer sur le vol un colis avec la bombe à l'intérieur. Étape numéro 3. Régler la minuterie pour que la bombe explose lorsque l'avion survole le fleuve Saint-Laurent. Étape okay. numéro 4. Je t'expliquerai pourquoi. Étape numéro 4, se débarrasser de sa femme une fois pour toutes. C'est ça son plan.
J'aime ça quand tu décris les plans en étapes. C'est
vrai?
Étape numéro 1.
Mais c'est ce que je le vois. Je l'imagine, le gars, planifier son truc. Puis genre, ouais. OK. Tu sais, mettons, tu l'écris.
Ouais.
C'est étape numéro 1. Rita prend l'avion. Vers de Bécomo. Étape numéro 2.
Ouais, ouais.
À la fin, voilà. Elle est décédée, je peux marier Marie-Ange.
Ouais, étape 5, marier Marie-Ange.
Genre dans son petit journal intime, là, il écrit ça. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas vrai. Donc, son plan est infaillible jusqu'à maintenant. Okay?
Mm-hmm.
Albert, il réussit donc à convaincre Rita de prendre l'avion à l'aéroport de l'Ancienne Lorette, à Québec.
Ouais.
C'est là que mes parents habitent. En direction de Bécomo pour aller chercher une valise remplie de bijoux de valeur qu'il aurait oublié dans un hôtel là-bas. C'est okay. ça son prétexte. Albert, il invente simplement un prétexte pour pas avoir à y aller lui-même.
Mm-hmm.
Rita est réticente, mais a fini par accepter. Parce okay. qu'on se rappelle que notre Albert, c'est un excellent vendeur, puis il est habitué d'avoir ce qu'il veut mm-hmm. dans la vie.
Ouais. C'est un bon manipulateur.
Exactement. Donc, le jour du décollage, le 9 septembre 1949, Albert dépose sa femme à l'aéroport de l'Ancienne Lorette. Que fait-il ensuite? 2 choses. J'ai fait une autre liste. 1. Il souscrit à une police d'assurance pour Rita du montant de 10 000 $, se nommant lui-même comme bénéficiaire.
Oh!
Direct après avoir dépensé.
Direct.
Ouais. La police, ça a l'air que ça vaudrait environ 100 000 $ aujourd'hui. Et l'équivalence, là.
Oh,
et fait intéressant, la mise de fonds pour une assurance vie de 10 000 $ à l'époque, c'était de 50 sous. Fait qu'il avait déposé 50 sous pour pouvoir
avoir 10 000 $.
Exactement.
Hmm.
Après ça, chose numéro 2, qu'il fait après avoir déposé Rita à l'aéroport, il se rend sur la terrasse du Frein, qui est en face du château Frontenac à Québec, apparemment avec Marie-Ange, pour tenter d'observer l'avion exploser au loin,
oh my God.
Puis s'écraser dans le fleuve Saint-Laurent. Mmh. Ça lui servirait aussi d'alibi.
Ouais, d'avoir été vu. Ouais.
Exactement. Juste avant que l'avion de Rita décolle, le vol 108 de la Canadian Pacific Airlines, Marguerite se rend en taxi à l'aéroport et enregistre un colis,
mm-hmm.
entre guillemets, de dernière minute à livrer à Bécomo. Destinataire, M. Alfred Plouf de Bécomo, expéditeur Delphis Bouchard de Saint-Siméon.
Toutes des noms inventés.
Deux personnes qui n'existent pas. Mm. Le colis se retrouve donc dans la soute à bagages du vol 108.
Il devait avoir vraiment moins de surveillance puis d'unité à l'époque. Hein. Là,
ouais. Oh my God. Il paraîtrait que Marguerite aurait accepté de rendre ce service-là à Albert parce qu'elle lui devait 600 $ et Albert lui aurait promis d'effacer la dette si elle faisait ça pour lui.
Hey, mais savais-tu ce qu'il y avait dedans? On le sait pas.
Je continue.
OK.
Donc, le vol 108 de la Canadian Pacific Airlines décolle. Le vol était en fait parti à 9 heures plus tôt de Montréal, puis il faisait une escale à Québec pour embarquer quelques passagers, dont Rita, sans oublier le fameux colis. Selon les calculs très scientifiques d'Albert, l'avion décollait à 10h15 de l'ancienne Lorette, donc la bombe devait exploser à 10h45, soit 30 minutes après le décollage, parce qu'il voulait que ça explose juste au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Parce que, suivant sa logique, puisque les débris se retrouveraient dans le fond du fleuve, les inspecteurs spécialistes du ministère fédéral des Transports, ceux-là qui sont chargés d'investiguer les accidents d'aviation, ils seraient incapables de lier la tragédie jusqu'à lui, faute de preuves.
Ouais, OK.
C'était ça son plan parfait. C'est donc le 9 septembre 1949, à 10h45, que le vol 108 de la Canadian Pacific Airlines explose, comme prévu, en plein ciel.
Oh my God, OK, ça marche.
Exactement comme l'avait prévu Albert. Le seul mini problème, c'est que l'entièreté du succès du plan d'Albert était basée sur sa confiance aveugle envers les horaires des compagnies aériennes. Lol.
Lol. Il n'y avait pas du tout... On parlera aux passagers de Sunwings.
Donc, il n'y a pas du tout pensé que le vol en question pouvait ne pas partir à l'heure prévue. Il n'a pas pensé à lui. Eh bien, cette journée-là, le vol 108, il n'a pas décollé à 10h15 comme prévu, mais bien avec 10 minutes de retard. Donc, il a décollé à 10h25. Ce qui a fait en sorte que l'avion a explosé, oui, malheureusement, mais pas au-dessus du fleuve Saint-Laurent où les décombres seraient impossibles à retrouver. L'avion a explosé au-dessus de Saute-au-Cochon, qui est une... Ça aussi, je l'ai googlé. C'est une région boisée qui était à l'époque inhabitée. C'est situé entre Saint-Tite-des-Caps et Sainte-Anne-de-Beaupré, à peu près 75 km de Québec.
Ah, OK. Fait que plus dans vers Charlevoix, mettons.
Genre. Ouais. Mais donc.
Mais une chance que c'était pas peuplé, là, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Ça aurait pu tomber sur une ville. Là.
Fait que là, ça va pas bien son affaire, parce que ça s'est pas passé comme il avait prévu.
Non. Mais ça a quand même marché.
Oui, oui, ça a marché.
Ouais, en fait.
Mais, voilà, à suivre. Les observateurs qui ont été témoins de la tragédie ont dit que c'était comme si l'avion avait heurté un objet en plein ciel. Ensuite, l'avion y aurait chuté très rapidement pour finalement aller s'écraser dans les montagnes très abruptes du Cap Tourmente, pour ceux qui connaissent le coin. Il y a deux officiers à bord d'un bateau de la Canada Steamship Line en route vers Montréal à Bagotville qui ont entendu l'avion exploser puis qui ont vu une bouffée de fumée blanche s'échapper du côté gauche de l'avion. Donc là, aussitôt, il y a une alerte qui a été envoyée. Le problème, l'endroit où l'avion s'est écrasé était extrêmement difficile à rejoindre parce que c'était inhabité à ce moment-là. Et à pied, c'était une heure de sentier de montagne escarpée. En voiture, c'était le trip du temps et impossible de s'y rendre complètement, comme à 100% en auto. Il y a seulement quelques personnes qui ont réussi à atteindre le site de la tragédie, dont Albert Gay.
Hein?
Qui, fidèle au comportement des meurtriers,
voulait se rendre sur la scène du crime. Hein?
Ça, exactement.
C'est wack.
Il a réussi à se rendre. Lui.
La scène. Des survivants?
Non.
Oh my God. Okay.
La scène est décrite comme intolérable avec des corps gisant sur le sol près de la carcasse métallique de l'avion. Personne n'a survécu. 23 victimes au total, comprenant Rita. 4 membres d'équipage, dont le pilote Pierre Lorrain, dont la femme attendait un bébé. Et aussi, il y avait 4 enfants parmi les victimes. Aussi, cette tragédie-là, elle a été vraiment beaucoup médiatisée à l'international. Et la raison pour laquelle ça a été médiatisé, c'est parce que parmi les victimes, on comptait 3 importants hommes d'affaires américains qui étaient cadres de la compagnie Kennecott Copper, qui était une multinationale dans le domaine de l'extraction de cuivre à l'époque. Mm. Donc, au départ, les enquêteurs de la Canadian Pacific Airlines, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un triste accident.
Mm-hmm.
Mais ils décident quand même de mener une enquête approfondie due aux commentaires des premières personnes qui étaient arrivées sur la scène. Okay. Ces personnes-là auraient déclaré avoir senti une odeur qui leur rappelait la dynamite.
Ouh, c'est ça, parce que ça sent quelque chose de spécifique.
Ouais, ça a l'air.
C'est quoi, le soufre, genre? Ou...
Je sais pas qu'est-ce que ça sent exactement. Mais j'imagine qu'à l'époque, vu que c'était plus courant d'en avoir, c'était facilement accessible, les gens, ils savaient qu'est-ce que ça sentait. Fait que c'est pour ça que les personnes n'ont pas dit « ça sent la dynamite », ils ont dit « ça sent quelque chose qui me rappelle l'odeur de la dynamite ».
Hey, mais quel psychopathe pareil! Pour tuer une personne, il en tue 23?
Ouais.
Hey, tu sais, à quel point il s'en fout, là?
Ah oui, il s'en fout
complètement. Zéro empathie, là.
Zéro. Puis le pire, c'est qu'il l'avait vu, là. Je veux dire, le gars philippin qui avait fait ça à la base, c'est ce qui lui a inspiré le truc.
Ouais.
Il savait que, les,
que le reste du monde allait mourir.
Ben oui. Il n'y avait aucun survivant dans ce soir-là non plus. Ouais, bref. Donc là, l'information de l'odeur de dynamite, ça chicote beaucoup les enquêteurs parce qu'évidemment, la dynamite ne s'est pas utilisée dans la fabrication d'un avion et que la loi du Canada interdit à tout avion de transporter de la dynamite sauf dans des circonstances très rares et contrôlées. Il n'y avait aucune autorisation de transport de dynamite qui avait été accordée pour le vol 108. À peu près 400 mètres du lieu de l'écrasement, les enquêteurs retrouvent ce qu'on appelle le compartiment numéro 1. Okay. Ce compartiment-là, c'est habituellement situé dans l'avion, sur le côté gauche de l'allée menant de la cabine à la salle de contrôle.
Okay.
Puis ça contient comme des bagages.
Okay.
Selon les enregistrements de la Canadian Pacific Airlines, le compartiment numéro 1 de ce vol-là devait contenir 8 bagages à main, 3 valises, 2 machines à écrire et 3 paquets Air Express.
Okay.
Dans ces paquets-là, il y en avait un qui contenait des pièces d'automobile, il y en avait un autre qui contenait de la lingerie. Et le troisième était un colis de 25 livres, qui est quand même beaucoup, dont le contenu n'est pas précisé, de Delphis Bouchard de Saint-Siméon à Alfred Plouffe de Baie-Comeau. Donc, ça n'a pas pris de temps avant que les enquêteurs s'intéressent à ce paquet-là.
Ouais.
Après quelques recherches, ils découvrent qu'il n'existe personne du nom d'Alfred Plouffe à Baie-Comeau. Et ils trouvent un Delphis Bouchard à Saint-Siméon, malheureusement, qui était gardien de nuit sur un pont, mais lui, il déclare qu'il s'est rien.
Le gars, il va être...
Ah, c'est random, ce là. C'est vraiment random. Mais, tu sais, il explique, puis il n'y a rien à voir là-dedans. Donc, à l'aéroport de Québec, le commis au bagage, il déclare qu'il y a une femme aux cheveux bruns qui était vêtue de noir d'à peu près une quarantaine d'années, qui était arrivée en taxi un peu avant le décollage du vol 108 et qui avait enregistré un colis au contenu non spécifié. Donc, il est quand même facile à retrouver.
Ouais.
Les preuves commencent donc à pointer vers un crime et non un accident. Là, on se rappelle que dans ce vol-là, je sais pas, il y avait 3 hommes d'affaires importants de la Kennecott Copper Company. Donc, on soupçonne d'abord que le crime avait été commis contre les cadres de cette compagnie-là parce que souvent, les hauts placés, ils ont peut-être des ennemis. Ouais. Fait que là, c'est pour ça qu'on pense à ça en premier. Donc, le 14 septembre, finalement, ça a été de mes côtés. Le 14 septembre, le jury du coroner qui a été réuni pour examiner l'accident rend un verdict de, et je cite, mort accidentelle due à une explosion d'origine indéterminée.
Okay.
Ce qui conclut l'affaire.
Ah?
Ouais.
OK.
Mais là, il y a comme personne qui est satisfait de cette conclusion, sauf probablement Albert.
Albert est bien content.
Donc, l'enquête continue quand même underground. Parce que selon le jury qui a le coroner, c'était fini, c'était clos. Je sais pas pourquoi, en tout cas. À cette époque-là, les chauffeurs de taxi, ils tenaient un registre assez détaillé de leurs déplacements. Il a été donc facile de retracer Paul-Henri Pelletier, qui était le chauffeur de taxi de Marguerite le matin du 9 septembre. Et il s'en rappelait très bien de Marguerite. Il disait que c'est une femme brune avec un lourd colis identifié en rouge dessus, fragile. Puis il savait qu'elle était du coin parce que c'est vraiment drôle ce qu'il dit. Il dit elle a référé au château Frontenac en l'appelant juste le château.
Mm.
Comme les gens de Québec qui font. Ouais. Les gens de Québec, ils disent jamais le château Frontenac, on dit tout le temps le château. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de châteaux au Québec.
Il n'y en a pas d'autres.
C'est ça. Pas comme en Europe ici. Donc, entre-temps, comme sachant que l'enquête est encore ouverte, finalement, Albert devient de plus en plus craintif que les autorités réussissent à remonter jusqu'à lui.
Ouais.
Il se rend donc au domicile de Marguerite un bon matin et il tente de la convaincre, écoute-moi bien, de se suicider et de laisser une note disant qu'elle a mis la bombe dans l'avion volontairement parce qu'elle croyait qu'Albert allait y être puis elle voulait le tuer.
Hey, ça, là, c'est vraiment un drôle de plan.
Écoute.
Je vais aller la convaincre de suicider. Voyons.
C'est quoi le père dans l'histoire?
Elle accepte?
Oui.
Hein?
Il la convainc.
Ben non.
Je te jure. Il y a un très grand... C'est pour ça que je te disais... Hein? Il y a un très grand... Je sais pas comment il est fait, l'histoire le dit pas, mais il y a un très, très grand pouvoir de persuasion. Donc, malheureusement, Marguerite, elle veut s'enlever la vie. Elle prend plusieurs pilules. Mais...
Elle survit.
Sans succès, elle survit. Elle se réveille plus tard à l'hôpital et elle avait pas écrit la note.
Okay.
Donc, ils l'ont retrouvée. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a retrouvée et qui l'a amenée à l'hôpital.
Uh-huh.
Mais elle a quand même essayé de se suicider. Là, je t'ai dit un fait très intéressant que j'ai découvert. À cette époque-là, le suicide et la tentative de suicide, c'était des infractions pénales en vertu de l'ANEA 241B.
Mais oui.
Bien que le suicide soit décriminalisé en 1972, le suicide assisté reste à l'époque illégal et le suicide non assisté.
Oui, c'est ça, parce qu'on est encore super catho. Puis,
exactement.
Selon l'Église catholique, c'est un péché.
Exactement. Donc, toute personne reconnue coupable d'avoir conseillé à quelqu'un de se suicider ou d'avoir aidé quelqu'un à se suicider ou de se suicider est considérée coupable d'homicide et passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans. Donc, c'est vraiment intense, là, à cette époque-là, le suicide. Pendant ce temps, fait que là, Marguerite tente de s'enlever la vie. On la retrouve, elle se réveille à l'hôpital. Donc là, après ça, elle fait une petite convalescence à l'hôpital. Les autorités retracent Marguerite grâce à M. Pelletier, le chauffeur de taxi. Et ils vont à l'hôpital et ils l'interrogent. Et là, elle admet qu'elle a apporté le collier à l'aéroport. Mais là, elle mentionne qu'elle fait une faveur à son ami Albert Gay.
Oh.
Donc, elle dit son nom. Et elle dit qu'Albert lui aurait dit que le contenu de la boîte, c'était une statue extrêmement fragile de la Vierge Marie. Est-ce que c'est vrai?
Ouais.
Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'elle avait un petit kick sur Albert? Est-ce qu'ils ont eu déjà une relation? Est-ce qu'elle faisait ça pour lui faire plaisir? Tu sais, on sait pas. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là.
Moi, je pense que oui.
Donc, deux semaines après l'accident, le 23 septembre, Albert est arrêté et est enfermé dans la prison pour hommes de Québec située sur les plaines d'Abraham.
Ah oui, c'est là où il y a le musée.
Oui. Albert confie à son compagnon de cellule que la bombe à retardement a été fabriquée par le meilleur horloger de la ville, Généreux Ruet. Il mentionne son nom. Ce qu'Albert ne savait pas, c'est que ce fameux compagnon de cellule, c'était un agent de police infiltré. Voilà. Donc, les policiers...
C'est quelque chose qui marche souvent.
C'est fou, hein?
À quel point ils ont comme besoin de parler, genre de raconter comme leur...
Ben, en même temps, t'es enfermé. Tout ce que t'as à faire, c'est penser puis à vouloir parler. Je sais pas. Donc, les policiers ont pu procéder à l'arrestation officielle de Généreux, qui admet avoir fabriqué la bombe, mais dit qu'il croyait qu'elle devrait être utilisée pour faire sauter des souches d'arbres. Encore là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il était dans le coup?
On sait pas.
On sait pas. Le procès. Le procès d'Albert Gay commence le 24 février 1950. Donc, c'était en septembre 49, donc comme 5-6 mois après. Et dure deux semaines et demie. Au total, 82 personnes témoignent dans ce procès, dont Marguerite et Généreux. Albert est condamné à mort par pendaison et décide de ne pas faire appel à la décision parce que il veut. Ah oui, parce qu'il dit que s'il ne peut pas vivre avec Marie-Ange, de toute façon, il préfère mourir.
OK.
Et donc, Albert Gay est exécuté le 12 janvier 1951. Donc, presque un an après, à l'âge de 32 ans. Ses derniers mots auraient été, et je cite, « Au moins, je meurs célèbre. » Ouais.
Arc. Arc. Ouais. Pas triste. Pas triste qu'il soit parti. Oh, mais non, ça me fait quand même capoter qu'on exécute encore du monde.
Ouais, c'est fou.
À ce moment-là. Ah, c'est fou. C'est comme fou.
Généreux Ruet est aussi déclaré coupable de meurtre et condamné à mort par pendaison en novembre 1950. Oh, ouais. Marguerite, de son côté, ça c'est un peu whack, est accusée de meurtre, mais aussi de tentative de suicide. Et le 6 mars 51 est déclarée coupable et ironiquement condamnée à mort par pendaison.
C'est comme, t'sais, t'as essayé de te suicider,
ouais,
donc on va te tuer.
C'est whack, hein?
C'est vraiment bizarre.
Donc, Généreux et sa sœur Marguerite font tous deux appel de leur condamnation devant la Cour d'appel provinciale, puis devant la Cour suprême du Canada. Les appels sont rejetés. Donc, Généreux est exécuté le 25 juillet 1952 à l'âge de 54 ans et Marguerite Pitre, exécutée le 9 janvier 1953 à 45 ans. Fait intéressant, Marguerite, c'est la 13e et dernière femme à être pendue au Canada.
Ouh, quand même.
Donc, ça, c'est l'histoire qui se termine là.
Mm-hmm.
Mais, fait intéressant, encore, 6 ans après l'accident, donc le 1er novembre 1955, il y a le vol 629 de la United Airlines au Colorado, aux États-Unis,
ouais,
qui explose aussi en plein vol, tuant 44 personnes.
Ouh.
Le coupable est un homme du nom de John Jack Gilbert Graham, qui aurait voulu tuer sa mère parce qu'elle l'avait maltraité étant enfant. John a placé une bombe à retardement dans la valise de sa mère et a souscrit une assurance vie de 37 500 $ équivalent à environ 400 000 $ aujourd'hui, sur elle avant le décollage. Il aurait admis pendant son procès avoir été inspiré par les actes d'Albert Gay.
Oh,
il
ouais.
a ensuite été condamné à mort et exécuté en janvier 1957. Donc, quand on y pense,
aïe, aïe.
Albert Gay est responsable pour les 23 personnes décédées du vol 108.
Ouais.
Il est aussi responsable de la mort de Marguerite, de Généreux et de lui-même,
ouais,
parce qu'ils ont entraîné dans tout ça. Et il a influencé l'autre crime qui a tué 44 personnes. Donc, au total, avec mon calcul, il est responsable pour 70 morts. Si on compte John, ça fait 71.
Puis attends, encore pire, si tu penses, le premier dude qui a fait exploser l'avion au
Philippines... Ah ouais, lui est responsable de tout ça.
De, comme toute la suite, parce que lui a comme inspiré les autres.
C'est toutes des cocombes qui s'influencent les uns les autres, puis qui pensent, ah ben oui, c'est une bonne idée, moi aussi je vais tuer idée. Ça.
Oh my God!
Fait que tu sais...
C'est fou.
C'est capoté, pareil. Là. Puis ça a l'air que c'est un... Cette histoire-là, l'Albergue, c'est une des plus grosses... des plus gros attentats de l'aviation au Canada.
Ouais, c'est ça, je me dis, là, j'essaie de penser à d'autres avions qui ont explosé au Canada, j'en connais pas. Là.
Volontairement, non. Là.
Non, c'est ça, il y a peut-être eu des accidents, là, mais ouais, comme c'est ça, volontaire. Là.
Non, c'est pour ça que cette histoire-là, j'ai lu les gros types, ouh, ça m'intéresse de d'en savoir plus sur cette histoire-là, puis voilà. Ah, aussi avec la pendaison, puis j'en ai appris vraiment beaucoup avec ce cas-là.
Ouais. Ouais, vu que c'est historique,
le suicide
là,
qui était ouais le suicide qui était illégal puis tu étais condamné à mort pour être accusé de tête, tu sais.
Ouais. Hey, ouais. Grosse histoire.
Grosse histoire. Merci. Comment se marier avec son amante quand tu veux pas divorcer? Vous avez le plan ici. C'est comme ça que ça marche. Hey, ça gosse-tu quand je fais ça?
Non, moi j'aime pas ça. J'aime ça comme vraiment cute.
J'aime ça faire des états. Donc voilà, c'était l'histoire d'Albert Gay. C'était, honnêtement, j'en ai vraiment appris pendant ce cas-là. Vous me direz si vous en avez appris aussi. Il y a plein de choses que j'ai recherchées. Puis aussi, je voulais dire que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à écrire cette histoire-là parce qu'à chaque fois que je lisais une source, il disait jamais la même chose. Parce que ça date de quand même longtemps. Fait que j'imagine que les médias, c'était moins... Les sources étaient moins recherchées, fiables. Tu sais, mettons, ils s'entendaient pas sur l'âge de Marie-Ange. Ils s'entendaient pas sur la date qui a été exécutée. Ils s'entendaient pas sur la date de naissance d'Albert Gay. On avait de la misère avec les dates, j'imagine. Ouais. Je sais pas. Fait que tu sais, il y a plusieurs détails que j'ai enlevés de l'histoire parce que j'ai pas pu les vérifier.
Mais ça, l'âge, là, dans tous les cas que je recherche... Là,
ah, c'est fou, hein?
C'est genre... Dans chaque article, c'est un âge différent. Puis ouais. Comme...
Okay. Il dit, genre, il naît en 2000, puis en 2002, il y a 8 ans.
Hein? T'es comme, hein?
OK. Ça marche pas. En tout cas, bref. Okay. Les histoires un peu plus vieilles, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, ouais. Mais ça vaut quand même, tu sais, les détails. Moi, ce que j'ai mis dans l'histoire, c'est ce que j'ai pu le vérifier. Il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées parce que ça n'avait pas de bon sens. Donc, bref, voilà. C'était l'histoire de la semaine. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter dans 2 semaines?
Oui.
Tu sais? Est-ce que tu nous donnes un petit...
C'est un cas quand même marquant pour l'histoire du Québec et du Canada.
OK.
Ouais.
Ça me titille. OK, parfait. Ouais. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. Puis on se revoit dans 2 semaines.
Oui, à la bine prochaine.
Bye.
Bye.
And things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars toujours aux toilettes? Il faudrait que t'arrêtes de boire de l'eau. And things you do make me crazy about you. Pourquoi tu fais pipi tout le temps? Il faut aller de l'avant. Oh wow. Merci tout le monde. Merci.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.